L'Iran ne transigerait jamais sur la défense des intérêts et des ressources du pays, a ponctué le chef d'état-major des forces armées iraniennes. Le mouvement Saralla du Yémen affirme que le pays a atteint un niveau de capacité militaire qui lui permet de répondre à l'agression de l'ennemi avec une puissance de feu remarquable. Et Mali, Burkina Faso, Guinée, légende au menu du sommet de la CEDEAO. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Baredi, a souligné que la sécurité du Golfe Persique a entraîné une diminution significative de la présence de flottes extra-régionales dans cette zone stratégique. La réduction significative de la présence des flottes extra-régionales dans le Golfe Persique indique le succès de la République islamique d'Iran à établir une sécurité durable dans la région, a déclaré le général Baredi lors d'une interview accordée à l'agence de presse officielle IRNA dimanche 4 décembre en marge d'une visite à une base aérienne dans la ville méridionale de Bushehr. La sécurité pleinement établie dans la région est le résultat des efforts et du sens de responsabilité de la République islamique d'Iran. Et cette sécurité a été assurée par nos patrouilles aériennes et maritimes, 24 heures sur 24, a-t-il poursuivi. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes a souligné l'importance de la sécurité commune pour les pays riverains du Golfe Persique en déclarant « La sécurité du Golfe Persique contribue à la promotion des activités économiques de la population côtière dans la province hautement stratégique de Bushehr et fait relancer le commerce maritime et de la pêche ainsi que des activités liées au pétrole et au gaz. » Le général Baredi a également annoncé la pleine préparation et la haute capacité des unités militaires de l'armée, du corps des gardiens de la révolution islamique et du ministère de la Défense pour protéger les frontières du pays. Les responsables militaires et politiques iraniens ont déclaré à de nombreuses reprises que l'Iran était toujours prêt à défendre ses intérêts et ses ressources, avertissant que la sécurité du Golfe Persique et du détroit d'Hormuz était une ligne rouge de Téhéran. Selon l'Iran, la sécurité du Golfe Persique doit être assurée par les pays de la région et il n'y a pas besoin de la présence de forces étrangères dans les voies navigables internationales de cette zone maritime. Les responsables iraniens ont également décrit les activités déstabilisatrices d'Israël comme la principale source d'insécurité dans la région, mettant en garde les pays de la région contre des dangers de permettre à Tel Aviv de prendre pied dans la région. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sali, a déclaré que le Yémen a atteint un niveau de capacité militaire qui lui permet de répondre à l'agression de l'ennemi avec une puissance de feu remarquable. Auparavant, l'ennemi bombardait Sanaa et d'autres provinces, mais aujourd'hui, nous sommes en mesure de riposter à toute frappe avec des dizaines de missiles et de drones, a-t-il dit ce dimanche 4 décembre au micro de la chaîne d'information yéménite Al-Masira. Nos forces armées ont pu imposer une équation sur l'échelle de la dissuasion et de la terreur avec l'ennemi, a-t-il dit. Le général Sali a confirmé que la récente équation de dissuasion imposée par les forces armées dans le cadre de leur mission de protection de la richesse souveraine du pétrole et du gaz a prouvé son efficacité. La dissuasion et la mission de surveillance des forces armées yéménites ont prouvé leur efficacité dans la protection des richesses du pays, s'est-il félicité. Le porte-parole des forces armées yéménites a considéré les efforts des forces armées pour affronter l'ennemi comme une lutte sainte. Il a également rendu hommage aux martyrs qui ont aidé à renforcer la sécurité et la stabilité dont jouit le Yémen aujourd'hui. Le peuple yéménite est fier du courage et du sacrifice dont ont fait preuve les martyrs, a-t-il conclu. Les mouvements de résistance palestiniens, Hamas et djihad islamique, basés dans la bande de Gaza, ont condamné dans les termes les plus vifs la visite en cours à Bahreïn du président du régime sioniste. Le responsable du Hamas, Bassim Naïm, et le porte-parole du djihad islamique, Tahrir Salemi, ont condamné dimanche 4 décembre la visite d'Isaac Herzog à Bahreïn, quelques heures après son arrivée à Manama. Il devient ainsi le premier président israélien à se rendre dans le royaume. Bahreïn a signé un accord de normalisation négocié par les États-Unis avec le régime sioniste lors d'un événement organisé par la Maison-Blanche en septembre 2020. Depuis, les régimes de Manama et de Tel Aviv tentent de cimenter la soi-disant détente qui a été dénoncée par les Palestiniens et leurs partisans régionaux et internationaux qui la jugent comme un coup de poignard dans le dos de la cause palestinienne. Bassim Naïm a qualifié la visite d'ignominieuse et a dénoncé la tentative du roi de Bahreïn, Hamed bin Issa al-Khalifa, d'accueillir le chef d'un régime d'apartheid qui dirige la plus grande structure terroriste du monde, la jugeant pathétique, a rapporté l'agence de presse palestinienne Shahab. Le monarque bahreïnien reçoit le président israélien alors que les forces du régime sioniste continuent d'exécuter des Palestiniens dans les territoires occupés et que leur sang coule comme une rivière. La visite est également concomitante avec les violations continues de Tel Aviv contre les lieux sacrés du monde musulman, en particulier l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l'islam, a ajouté Naïm. Le responsable du Hamas a déclaré que pour faire plaisir à Tel Aviv, Manama a tenté d'imposer sa volonté à la nation bahreïnie. C'est alors que les dirigeants tirent leur légitimité et leur longévité politique de la volonté de leur nation et non de la fraternisation avec les ennemis des nations, a-t-il conclu. Le responsable du djihad islamique, quant à lui, a présenté le voyage d'Herzog comme une démarche visant à détourner l'attention de l'opinion publique mondiale des atrocités et des actes de terreur de ce régime. Tariq Salemi a salué la nation bahreïnie et a appelé toutes les nations arabes musulmanes à élever la voix contre toute normalisation des relations avec le régime sioniste et les ingérences de ce dernier. En septembre dernier, le premier ministre israélien sortant Yair Lapid s'est rendu à Bahreïn pour y inaugurer l'ambassade d'Israël. Naftali Bennett s'y était rendu en début d'année, au mois de février. En signe de contestation à la visite d'Isaac Herzog, les Bahreïnis ont organisé dimanche des manifestations dans tout le pays pour réitérer leur soutien à la Palestine et condamner la normalisation des relations diplomatiques avec le régime de Tel Aviv. En France, des cyberattaques s'ajoutent aux grèves et contestations pour aggraver la crise en cours. Une cyberattaque a perturbé depuis samedi soir, 3 décembre, l'activité du centre hospitalier de Versailles. L'accueil des patients est par conséquent limité, a expliqué l'hôpital, précisant que le système informatique avait été coupé et une cellule de crise ouverte. Le 22 août dernier, c'est le centre hospitalier sud-francilien CHSF de Corbeil-Essonne qui avait été la cible d'une cyberattaque. Son fonctionnement avait été fortement perturbé pendant plusieurs semaines, avant de revenir proche de la normale à la mi-octobre. La crise énergétique pousse l'Allemagne vers de nouvelles crises. Cette fois, c'est au tour des hôpitaux d'être touchés. Les coûts de l'énergie et l'inflation placent les hôpitaux allemands dans une position difficile. Le programme de soutien du gouvernement est arrivé trop tard, selon l'Association des hôpitaux allemands. Selon les statistiques de cette association, un hôpital dépense en moyenne 6 millions d'euros supplémentaires par an pour payer l'électricité et le gaz naturel. Pour soutenir financièrement les hôpitaux, le gouvernement allemand a approuvé un plan d'aide de 8 milliards d'euros afin qu'il soit en mesure de répondre à l'augmentation des coûts énergétiques et à la hausse des prix due à l'inflation. Abuja a accueilli ce dimanche 4 décembre un nouveau sommet de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Plusieurs sujets épineux y ont été abordés. Le sommet de la CEDEAO, tenu ce dimanche 4 décembre, Abuja au Nigeria a fait des propositions. Sur le cas de la Guinée, la conférence des chefs d'État a demandé un dialogue inclusif et que si toutefois ce dialogue ne pourra pas se tenir à Conakry, la CEDEAO proposera une capitale de la sous-région pour abriter la rencontre. Un sommet au cours duquel la Guinée a été représentée par le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Pour le cas du Burkina Faso, l'institution aidera le pays sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la conduite de la transition. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Quels sont les grands acquis du mouvement des Gilets jaunes? Le 1er décembre 2018, les Gilets jaunes se sont affirmés en France, inscrivant leur nom dans les livres d'histoire avec leurs autocollants, graffitis, révolutionnaires sur l'Arc de Triomphe. Avec leur autocollant graffiti révolutionnaire sur l'Arc de Triomphe, l'un des monuments les plus emblématiques du pays. Les Gilets jaunes vont gagner était un slogan qui a résonné dans le monde entier, alors que le mouvement est devenu la grande menace et un véritable mouvement révolutionnaire à laquelle un pays occidental a été confronté depuis plus d'un demi-siècle. Le monde ne s'attendait pas à ce qu'un véritable mouvement de résistance germe en France. Le pays était alors entièrement saisi par la frénésie révolutionnaire. Et c'était parce que le mode de vie français n'est pas aussi extravagant qu'on pourrait le penser. Les Gilets jaunes ont été victimes d'au moins 11 000 arrestations. Parmi eux, 1 000 000 sont devenus des prisonniers politiques. 5 000 manifestants ont été grièvement blessés. Il y a eu aussi des dizaines de mutilés à vie et 11 décès. Il est difficile de dire ce qui était pire. La répression par le régime français ou la façon dont les médias et les ONG occidentaux ont calomnié et ignoré les effusions de sang hebdomadaires, les tirs de gaz lacrymogènes et les arrestations massives. Les Gilets jaunes sont une réplique immédiate et permanente aux Occidentaux qui prétendent que leurs gouvernements sont plus protecteurs de la démocratie et moins brutaux que ceux des pays non occidentaux. C'est l'un des trois grands héritages des Gilets jaunes. Prospérité, stabilité et démocratie, rien de tout cela n'a été mis en œuvre en France depuis que le projet pan-européen a été activé en 2009. La France n'est plus vraiment la France, à moins que Bruxelles ne le dise, et elle devient de moins en moins sous un système politique qui est encore nouveau. Les Gilets jaunes ont donc vraiment mis 10 ans à se forger. Ils sont même arrivés sur la scène après une décennie pleine de grands mouvements sociaux. Car la première guerre de l'Union européenne n'était pas une guerre par procuration contre la Russie, mais une guerre sociale qu'elle a menée contre ses propres citoyens. Le problème n'était pas seulement la grande récession de 2008, mais le fait que l'Union européenne était le seul bloc macroéconomique à n'avoir mis en œuvre aucun plan de relance majeur. Pire encore, sa réponse a été d'imposer de manière antidémocratique des politiques d'austérité d'extrême droite. Les Gilets jaunes étaient la classe ouvrière pauvre, cimentée par les changements à Bruxelles, et leurs adversaires étaient le bloc bourgeois. Les Gilets jaunes ont rejeté l'insistance du monde anglo-saxon, dont les approches sont politiquement conservatrices, selon laquelle tous les groupes populaires en Occident sont nécessairement d'extrême droite. Depuis décembre 2018, il était clair en France que les Gilets jaunes étaient plutôt proches d'une politique économique de gauche, d'anti-impérialisme et d'une conception non-islamophobe et moderne d'un patriotisme sain. Cela explique le taux d'approbation de près de 80% pour le mouvement et sa popularité stupéfiante, en particulier en France, qui était devenue extrêmement cynique en raison des échecs antidémocratiques du projet pan-européen. Le rejet de la réalité actuelle des classes sociales en Occident est le deuxième grand acquis des Gilets jaunes. Cependant, il y a un acquis encore plus grand, dont on a pourtant moins parlé, probablement parce qu'elle nécessite une vue d'ensemble complète de la politique occidentale moderne, qui a commencé en 1789 avec la Révolution française anti-monarchie et anti-aristocrate. L'émergence et la répression des Gilets jaunes rappellent à tous les indéniables échecs du libéralisme. Les Gilets jaunes ne sont pas vraiment nouveaux, mais font partie intégrante de l'histoire des révolutions françaises de 1848 à 1871. Le libéralisme s'est avéré un échec depuis 1848 et les principes libéraux qui sous-tendent le projet pan-européen échouent aujourd'hui. La passion désespérée et la pérennité des Gilets jaunes en sont la preuve et montrent l'hypocrisie, la brutalité et l'inefficacité d'un libéralisme toujours inégal, ce qui est la troisième et plus grande réalisation des Gilets jaunes.